lequel nous allons aborder les thèmes de la liberté et de la responsabilité. Nous allons voir comment ils sont interdépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité sans liberté, mais qu'il n'y a pas non plus de liberté sans responsabilité. Donc ça forme une boucle, dans le fond, où ces termes se soutiennent, où ces attitudes se soutiennent. Aujourd'hui, tout d'abord, j'aimerais aborder le problème de la liberté, mais l'aborder aussi dans un contexte culturel un petit peu plus vaste, parce que lorsqu'on aborde ces thèmes seulement du point de vue bouddhique, on manque de perspective et on ne se rend pas compte de tout le contexte qui rend la notion de liberté possible dans la tradition bouddhique. Et peut-être d'envisager justement dans les autres traditions où cette notion n'est pas possible, pourquoi elle n'est pas possible dans d'autres traditions. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, les termes liberté jouent un rôle essentiel, c'est-à-dire que c'est le cœur de ces traditions-là. Mais ce n'est pas du tout le cas dans les traditions monothéistes, par exemple. On ne parle pas de liberté, c'est autre chose. Ni d'ailleurs dans l'Antiquité. Donc j'aimerais un petit peu placer le contexte pour qu'on se rende compte pourquoi cette notion devient possible, quel sens elle a, et pourquoi, dans le fond, dans une certaine vision du monde, cette notion de liberté a un sens extrêmement limité. Donc pour aborder ces notions-là, une notion occidentale, donc je ne suis pas un philosophe, je me suis basé un peu sur les réflexions d'Anna Arendt, cette grande philosophe et sociologue allemande, un petit peu aussi sur les réflexions de Sartre, qui me semble éclairer beaucoup les sujets ici, comme on essaie de traiter. Et Anna Arendt commence par dire que le problème de la liberté est quelque chose de complexe, et que finalement on oscille entre un sens que cette liberté est quelque chose de tout à fait possible lorsque on observe la nature de la conscience, si vous voulez, mais lorsqu'on voit combien notre vie quotidienne est dépendante de divers éléments, combien alors la liberté semble quelque chose qui n'a pas de sens. Et essayer de combiner ces deux aspects, c'est un peu comme la quadrature du cercle. On arrive en tournant, on n'arrive pas à trouver une solution. Donc pour souligner ici la difficulté du problème de liberté. Liberté telle qu'on pourrait la poser, l'imaginer ou la souhaiter, et puis quand même une certaine absence de liberté telle qu'on en fait l'expérience dans la vie quotidienne. Donc j'aimerais amener quelques réflexions un petit peu sur la pensée occidentale pour vous montrer à quel moment cette notion de liberté, elle peut surgir et pourquoi. Et pourquoi elle surgit par avant. On pourrait dire qu'il y a des centres d'intérêt ou de valeur qui évoluent. Dans l'Antiquité, le centre de valeur, c'est le cosmos. Donc, chez les Grecs, c'est l'ordre cosmique qui prévaut. Puis évidemment, avec le christianisme plus spécifiquement, bien, le centre, c'est Dieu. Et puis plus tard, la réflexion sur les Lumières, on trouvera, et dans l'humanisme, on trouvera que l'homme est au centre, ou l'humain est au centre des préoccupations. Donc il y a là une sorte d'évolution, et qui va aussi avoir un impact très fort sur la notion de liberté. Donc cette notion de liberté, dans le fond, elle n'est pas présente dans l'Antiquité. Elle apparaît pas dans la philosophie grecque jusqu'au 3 ou 4e siècle après Jésus-Christ. Elle surgit surtout avec saint Augustin et sa conversion au christianisme, si vous voulez, où là tout d'un coup la question de liberté peut surgir. Donc c'est intéressant de voir que dans la pensée grecque, finalement, le problème de la liberté n'est pas un problème essentiel. Dans ces termes qu'on s'engage dans une quête. Ce qui prime dans l'Antiquité, c'est l'ordre cosmique, c'est l'harmonie. Cet ordre cosmique, c'est le divin incarné dans cet ordre cosmique. quand dans la tradition antique on parle de connaissance de soi, elle n'est pas au sens psychologique qu'on pourra l'avoir bien plus tard dans la tradition occidentale, elle est surtout connaissance de sa place dans l'univers pour assumer cette place, pour être dans cette harmonie, trouver ce qu'on est et où on doit se situer dans l'univers, dans cette ordre, organisation de l'univers, je vais donc dire cosmos. Le maître et l'esclave, dans la tradition antique, ils ont leur place dans l'univers, mais elle est déterminée, si vous voulez, par cet ordre cosmique. Et si une notion de liberté peut surgir dans ce contexte, c'est une liberté économique. Il s'agit d'avoir le moyen économique, social, une certaine position pour avoir une certaine liberté, et non pas être un esclave ou ne pas être dépendant économiquement et socialement. Le sens que dans l'Antiquité on pourrait donner à la liberté, extrêmement quelque chose d'extrêmement limité. Donc il est important ici de bien se rendre compte que c'est le cosmos, cette harmonie qui est importante, et la place dans cette harmonie. Dans le fond, l'accusation qu'on a pu faire à Socrate, c'est de ne pas respecter cette harmonie, tout d'un coup de vouloir changer l'ordre. Et ça, c'était quelque chose qui était impardonnable. Et on trouve ceci aussi dans la tradition indienne, dans la notion de dharma. Le dharma dans la tradition indienne est le devoir qu'on doit accomplir selon la position qu'on a dans l'univers. Donc dans la tradition indienne, ici je ne parle pas des traditions hétérodoxes du bouddhisme et du jainisme, mais surtout la tradition indienne ou hindoue si vous voulez, pour simplifier. Et bien la notion de dharma, c'est d'accomplir parfaitement son destin, c'est-à-dire pour un hors caste, d'être un parfait hors caste, pour un marchand, d'être un parfait marchand, mais pas du tout de changer cet ordre. Ceci est extrêmement mal vu. Donc on doit garder cette organisation. Et cette notion de devoir, si vous voulez, dans la tradition indienne, selon sa position dans la hiérarchie. Il s'agit pour un potier d'être un parfait potier, mais pas de changer tout d'un coup de devenir un marchand. Et ceci n'est pas uniquement avant la période du Bouddha, jusqu'à l'époque contemporaine, on a encore cette notion qui prévaut en Inde de la position et de remplir parfaitement sa fonction. Évidemment, ceci est discuté un petit peu, chahuté aussi avec le développement d'une pensée moderne, aussi d'une pensée sociale. Comme Nehru par exemple a fait, mais ceci reste néanmoins profondément ancré dans la pensée indienne. D'occuper la place qui est la sienne et de l'occuper parfaitement. On a une pensée qui pourrait toucher à la notion de liberté intérieure, si vous voulez, chez les stoïciens par exemple, mais on parle plus de bonheur ou de sérénité que de liberté. Et pour les stoïciens, il s'agit de ne pas se laisser dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. Il y a quelque chose de profondément sage dans la pensée stoïcienne qui sera d'ailleurs repris tout au cours de la philosophie occidentale, quelque chose d'extrêmement brillant. Les stoïciens disaient qu'il ne faut pas vouloir que les choses arrivent comme on veut qu'elles arrivent, mais il faut vouloir qu'elles arrivent comme elles arrivent. Donc se rendant compte que lorsqu'on veut certaines choses qui sont hors de notre pouvoir, alors à ce moment-là, on se met dans un rapport de dépendance. Dépendance en quelque chose qui est hors notre portée. Donc dans une position de fragilité. L'analyse est très profonde parce qu'il y a très peu de choses qui dépendent de notre vouloir, de notre possibilité. Ni la vie, les proches, les enfants, ni sa propre santé, tout ça ne dépend pas de son propre vouloir. Donc il s'agissait pour les stoïciens de ne pas laisser son bonheur dépendre de ceci. Et l'attitude stoïcienne n'est pas une attitude d'indifférence, si vous voulez, qui serait, je crois, une manière qui manquerait de la profondeur de cette attitude. Le plus proche de ce que dans le bouddhisme on appelle l'équanimité, l'ouverture aux différentes expériences, mais sans attente. Et il y a deux mots principaux pour les stoïciens. C'est s'attacher au passé, par la nostalgie, le regret, la culpabilité. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement profond. Et s'attacher au futur, par l'espoir et l'attente. Et en général, on attache au fait de ne pas avoir d'espoir à la notion de désespoir, mais ici ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est le fait de ne pas attendre quelque chose, de ne pas espérer autre chose pour faire totalement face à ce qui est présent. Il disait que ces deux mots, d'être attaché au passé et au futur, voient le présent. Et qu'il y a de sérénité possible que dans ce contact avec le présent. Donc quelque chose évidemment qu'on connaît très bien dans la tradition bouddhique et dans la tradition de méditation. Mais si on a le sens qu'il y a une sérénité, que c'est le but de l'exercice, mais ceci évidemment s'inscrit dans une certaine vision de la position de l'être humain dans l'univers. Et pour les stoïciens, l'être humain est un fragment du cosmos, et après sa mort, il retourne dans ce cosmos, dans cet univers organisé. Ce n'est pas une sorte d'intériorisation de la notion de liberté, c'est une prise de conscience très claire de la manière la plus sereine de vivre. Plein d'enseignements, qui est extrêmement sage. Les textes des stoïciens sont extrêmement riches. Éclairent beaucoup d'aspects de la méditation bouddhique. Mais néanmoins, on reste dans ce contexte de notion de liberté dans le sens où ce qui prime, ce qui est là, c'est l'univers cosmique auquel on est soumis. Donc, avec cette importance, si vous voulez, de cette ordre cosmique, eh bien la notion de liberté ne peut pas réellement surgir puisque l'être humain est assujetti à cet ordre cosmique. Dans le fond, il doit s'y soumettre. Et plus il le fera de manière habile, plus il pourra vivre de manière heureuse. Et puis arrive une nouvelle pensée avec le christianisme. Alors évidemment, là, le centre n'est plus l'ordre cosmique, mais c'est Dieu qui est le centre. Bien qu'il reste un tout petit peu de ceci, puisque quelquefois, pour prouver l'existence de Dieu, on trouve des théologiens qui disent « Regardez l'organisation du cosmos, et ça prouve que ceci est bien le fait de quelqu'un de parfait. » Donc là, on reprend un petit peu cet aspect de l'Antiquité, mais ici, non pas pour en faire un idéal en soi, mais pour en faire un signe, un témoignage de la grandeur de Dieu, puisque l'univers est organisé de manière tellement parfaite. Donc c'est intéressant dans ce... C'était l'évolution de la pensée antique au christianisme, parce que quelquefois on pourrait avoir l'idée, on dit tiens, c'est un peu bizarre, avec cette notion de Dieu, on tombe dans quelque chose d'un peu moins sophistiqué ou plus naïf. Je ne dis pas qu'on doit penser ceci, mais on pourrait penser ceci. Et pourquoi, dans le fond, le christianisme a supplanté la pensée antique ? Clair que... Quoi des siècles, finalement, la pensée gréco-romaine a été oubliée avec le développement du christianisme. Il faudrait voir aussi ce que le christianisme apporte de nouveauté. Donc, d'une manière plus sensible, on pourrait dire plus attrayante, c'est qu'au lieu d'avoir un dieu abstrait, qui est l'univers cosmique, on a un Dieu personnel et qui se manifeste dans la personne du Christ. Ce qui veut dire qu'il y aura un salut dans la personne du Christ et aussi qu'on va retrouver les personnes qu'on aimait, non pas seulement abstraitement ou comme plante ou autre élément, mais on va les retrouver dans le corps, physiquement, dans un corps de gloire. Évidemment, les chrétiens ont beaucoup discuté. Est-ce qu'on va retrouver les gens qu'on aimait quand ils auront 382 ans? Ce qui, évidemment, semble un peu décevant. Mais cette notion de corps de gloire, on va les trouver dans le fond, dans ce qu'il y avait de plus achevé dans ces personnes-là, ou selon le moment où on les aimait, dans ce qu'il y avait de plus séduisant ou de plus valable dans ces personnes-là. Donc, on se rend compte que ceci peut, d'une certaine manière, être assez attrayant. Comment ceci peut aussi apaiser l'angoisse devant la mort, cette perspective de retrouver des êtres chers, corporellement, personnellement, puisque c'est un Dieu personnel qui préside à ceci. Ça, c'est le côté marketing, attrayant. Mais il ne faudrait pas oublier aussi, dans le fond, les avancées que présente le christianisme socialement, par exemple. Puisque, selon le christianisme, il n'y a plus, par nature, de différence entre un maître et un esclave. Tout le monde est au même titre, créature ou enfant de Dieu. Donc, il n'y a plus d'hiérarchie naturelle, comme chez les Grecs. Donc il y a un bouleversement social très important qu'amène le christianisme. Une égalité des êtres devant Dieu qui ne justifie plus l'esclavage. Chez les Grecs, on pensait qu'il y avait des talents naturels qui faisaient partie de cet ordre cosmique. Si on était dans un endroit privilégié, si vous voulez, on avait des talents, ces qualités, à tel point qu'on parlait d'un œil vertueux, qui veut dire un œil qui fonctionne bien, un organe qui fonctionne bien, un organe vertueux. Le sens de vertu ici n'est pas quelque chose qui réappelle une intention, mais qui fait simplement appel à une capacité. Donc on placerait les gens dans la hiérarchie, si vous voulez, selon leur capacité, mais non selon l'utilisation de ces capacités. Alors que dans le christianisme, on s'est rendu compte qu'évidemment, des capacités, des talents pouvaient être utilisés à bonne fin ou à mauvaise fin. Donc, ici, on va entrer la notion d'un choix, d'un libre choix qui se fait. Qu'est-ce qu'on fait de ces qualités, de ces talents? Et c'est ça qui est important. C'est ce qui va donner la valeur d'une personne dans son choix, la manière d'utiliser ses capacités, ses talents, et non plus simplement le fait d'en avoir parce qu'on a été bien doué dans cet ordre naturel. Donc on voit déjà ici commencer à surgir les notions de libre choix, choisir de quelle manière orienter ses capacités, ses qualités, ses talents. Mais il est évident qu'avec l'existence d'un Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, etc., la liberté de l'être humain est complètement limitée par la présence de Dieu. Que cette liberté, elle se situe en Dieu, si vous voulez. Donc voilà pourquoi dans le christianisme, comme dans les autres religions monothéistes, si vous voulez, eh bien, la notion de liberté n'est pas une notion essentielle. On n'a pas à se soucier de la liberté. Il s'agit de se soucier du rapport avec Dieu, si vous voulez, d'être le plus proche de lui, d'être uni à lui, quelle que soit la manière dont les mystiques l'exprimeront. Donc la liberté n'est pas un souci, une question. Bien que Maître Eckhart ou les grands mystiques, mais ils sont toujours un petit peu dans l'ordre de la transgression. Maître Eckhart disait, il faut prier Dieu de nous libérer de Dieu. Donc on peut se demander, dans le fond, pourquoi le christianisme représente cette ouverture sociale et pourquoi le judaïsme ne la présentait pas, puisqu'il était, si vous voulez, plus ancien et parallèle à la réflexion antique. D'une certaine manière, je crois qu'on peut l'exprimer ainsi, c'est que le judaïsme reste quelque chose qui n'est pas universel, qui est lié à un peuple élu, alors que le christianisme s'ouvre universellement. Même si les premiers apôtres voulaient réserver le christianisme, le message du Christ, aux communautés juives, c'est Saint Paul qui s'est battu pour l'ouvrir aux autres. Donc tout d'un coup, ça a ce côté universel, si vous voulez, que le judaïsme ne peut pas avoir de par son orientation de peuple élu, si vous voulez. Voilà pourquoi l'impact social, si on veut, je parle ici de cette hiérarchie, de cette égalité entre tous les êtres. Voilà pourquoi, dans le fond, le christianisme l'amène avec plus de clarté et de force. Mais évidemment, il va aussi y avoir une réflexion par rapport au christianisme dans les penseurs occidentaux, les philosophes, les scientifiques. On va commencer à questionner cette autorité suprême que représentait Dieu et surtout les textes révélés. Ces textes révélés, dans le fond, qui empêchaient l'approfondissement scientifique. Dans les problèmes que Galilée a eu, par exemple, avec le pape, nier ces découvertes scientifiques qui, pour lui, étaient d'une grande évidence, simplement parce qu'il en avait de sa vie. Et c'était inacceptable parce que ça semblait contredire les écrits révélés. Donc on a dans les rapports, comme ceci avec la religion, on a deux aspects. On a un rapport avec la religion organisée, c'est-à-dire le clergé, ici le pape, et puis on a un rapport qui serait avec la doctrine d'une manière plus vaste. Je dis ceci parce que, par exemple, Pasteur disait, un peu de science nuit à la religion, beaucoup de science nous y ramène. Pour montrer que lorsqu'on approfondissait, ou si on approfondissait légèrement, on croyait avoir découvert quelque chose qui pourrait contredit la Bible, par exemple. Mais quand on approfondissait plus loin, alors à ce moment-là, peut-être qu'on s'ouvrait à nouveau un mystère et que ceci ne fermait pas la porte de la religion. Comment ça, c'est toujours le rapport qu'on peut avoir avec la religion, pas nécessairement dans la doctrine elle-même. Je ne veux pas défendre le christianisme ici, mais je ne veux pas non plus qu'on tombe dans quelque chose d'assez naïf et de confondre aussi les interprétations du clergé à différentes époques, pas les confondre avec la tradition religieuse elle-même. Néanmoins, les scientifiques, les philosophes, on en a quand même marre de cette tutelle de l'Église, de tout ce qui limitait leur liberté. Et alors, avec le siècle des Lumières, tout d'un coup, s'ouvrent, et les scientifiques et les philosophes s'ouvrent un questionnement fondamental par rapport à cette autorité, un rejet de cette autorité. C'est un très beau texte de Kant sur qu'est-ce que les Lumières. Il me semble que bénéficierait tous à le lire, à tel point que sur le site de Vinaya Kirti en anglais, j'ai fait mettre ce texte parce que ça me semblait intéressant quand on s'engage dans une tradition spirituelle de bénéficier des lumières que Kant apporte. Je vais juste prendre une phrase ici de ce petit texte. Il dit « Les lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. » Il marque ici la dépendance qu'on peut avoir par rapport à un texte, par rapport à un maître, par rapport à une autorité. Et ce rejet, dans le fond, de sa propre responsabilité. Donc ici, on entre dans l'humanisme, si vous voulez, où c'est l'être humain qui va être mis au centre. On avait le cosmos, on avait Dieu, et tout d'un coup, on a l'être humain qui est mis au centre. Donc on change de perspective, et en changeant de perspective, évidemment, la notion de liberté va prendre une autre dimension. Mais lorsqu'on entre dans l'humanisme, il faut bien se demander, dans le fond, qu'est-ce qui est la spécificité de l'être humain? Si on le place au centre des valeurs, donc qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il différencie plus spécifiquement des animaux, puisqu'il semble qu'il y a quand même certaines similitudes? Alors les penseurs ont essayé de donner différents éléments pour différencier l'homme de l'animal. Alors certains ont pensé que c'était la raison. L'homme peut raisonner, réfléchir. D'autres ont pensé que c'était l'affect. Pour des choses intéressantes, par exemple, pour Descartes, l'animal n'a pas d'affect, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas. On se demande s'il n'avait jamais regardé un animal. Je sais s'il avait observé, etc. Mais enfin, pouvoir faire des affirmations de ce type-là, ça semble quand même assez étonnant. Mais peut-être que la réflexion la plus pertinente et profonde à ce sujet, entre ce qui différencie l'animal de l'homme, c'est Rousseau qui l'amène. Dans un texte qui parle de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, vous lirez les quelques phrases, mais pour lui, ce qui différencie essentiellement l'homme de l'animal, ce n'est pas la raison ni l'affect, c'est le fait que l'être humain n'est pas déterminé, qu'il se choisit, alors que l'animal est déterminé par son instinct. Donc il y a, d'une certaine manière, quelque chose qui, dans la nature humaine, n'est pas déterminé, n'est pas défini, que l'homme se choisit, l'être humain se choisit, alors que l'animal est complètement déterminé. Et il dit, l'un choisit ou rejette par instinct, donc c'est l'animal, et l'autre par un acte de liberté. Ce qui fait que la bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est prescrite. Même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l'homme s'en écarte souvent à son préjudice. Et l'homme s'écarte de la règle de la nature, même à, lorsque ça lui est négatif, lorsque c'est pas bon pour lui. Alors que l'animal, même si ça serait bon pour lui, ne s'écarte pas de son instinct. Il donne l'exemple ici, très parlant. Il dit, c'est ainsi qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes, et un chat sur un tas de fruits ou de graines, quoique l'un et l'autre puissent très bien se nourrir de l'aliment qu'il dédaigne. Il montre que l'animal ne peut pas changer sa programmation, si vous voulez. Il est déterminé par son instinct. Il dit, c'est ainsi que l'homme, dissolu, se livre à des excès qui leur causent la fièvre et la mort. Vous voyez, cette possibilité d'avoir des excès, c'est aussi le signe de la liberté. C'est-à-dire, on n'a jamais vu un pigeon avec une cigarette au bec, par exemple. Il dit, parce que l'esprit déprave les sens, que la volonté parle encore quand la nature se tait chez l'homme. Et la volonté, le vouloir parle encore. La nature dirait, on a assez mangé par exemple, ou ceci n'est pas très bon, mais la volonté parle encore. Donc ceci est extrêmement riche d'implications. Ce qui montre la liberté fondamentale de l'homme, puisqu'il peut se choisir. Alors que l'animal, lui, est déterminé par ses instincts. Et on peut dire que cette notion de la liberté de l'homme, de l'être humain, de se choisir, va jouer un rôle immensément important pour toute la pensée moderne. On est très loin de cette place que l'on occuperait dans l'univers, que ce soit dans la tradition antique ou même dans la tradition indienne, du Dharma. Et Sartre exprimait ceci, il disait, l'existence précède l'essence. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est que l'être humain, il existe avant d'être ceci ou cela. C'est-à-dire qu'un pigeon, il existe en étant un pigeon, pas le moyen de changer. Elle donne l'exemple du coupe-papier, pour montrer au contraire que dans les objets, eh bien c'est l'essence, c'est les caractéristiques qui existent avant, qui sont là avant l'existence. Un coupe-papier, d'abord on l'imagine, on le conçoit, et puis on le fait. Donc l'essence, les caractéristiques, elles sont là avant qu'il n'existe. On peut dire ceci de tout outil. Il a des caractéristiques, des fonctions, et puis d'un coup, il vient à l'existence. Alors que chez l'être humain, c'est l'inverse. Il vient à l'existence avant que d'être quelque chose de défini. Et que dans le fond, il a à se définir à chaque instant. Non pas qu'il se définit tout d'un coup parce qu'à 20 ans, on se choisirait une profession et on s'identifierait à quelque chose. Ceci, dans l'existentialisme, sert à un exemple de fuir sa liberté. Tout d'un coup, en voulant se faire exister comme un objet, vous voyez, le coupe-papier, lui, il a des caractéristiques très particulières. Mais quand on veut se faire exister comme un objet, c'est-à-dire instituteur, balayeur, boulanger, etc., on existerait comme un objet, c'est une manière de fuir sa responsabilité. Sa responsabilité du fait que notre existence précède notre essence, c'est-à-dire qu'on n'est rien de déterminé. Et ceci, on va le retrouver, on a un écho dans la pensée bouddhique où justement, il y a cette notion d'identification et du fait que si on s'identifie, on est dans la confusion, si on s'identifie à une profession, à une fonction, au corps, exactement, on veut se faire comme un coupe-papier. On se fait exister comme un coupe-papier, on peut choisir un autre objet, d'ailleurs, on n'impose pas le coupe-papier, mais cette manière de se faire exister, c'est, dans la tradition bouddhique, le propre de la confusion à propos de ce qu'on aime. Donc ici, chez les existentialistes, on trouve une expression similaire, si vous voulez, le contexte est bien différent, mais en essayant de comprendre ce que qu'à l'être humain, on arrive aussi à ces conditions-là. Où dans le fond, un des éléments essentiels de la confusion dans laquelle nous trouvons, c'est de vouloir nous faire exister au niveau des choses. Parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que d'exister simplement, sans se définir une fois pour toutes, c'est-à-dire accepter dans le fond qu'on n'est pas défini, est porteur d'angoisse. Donc autant se choisir ceci ou cela, finalement. Ce qu'il y a de rassurant, si j'imagine des gens qui ont des bonnes professions, entre guillemets, quand on dit voilà, français c'est un peu moins marqué, en allemand, en italien je crois plus marqué, professeur, etc. Voilà. Les Américains mettent des M et je sais pas, ils mettent plein de lettres avant leurs mots. Voilà, du coup on est quelqu'un. C'est rassurant, imaginez, vous arrivez là, il y a beaucoup de monde, etc. Vous pouvez mettre quelques lettres avant votre nom. Voilà, ça pose son homme pour ainsi dire. Et ça l'enferme. Hein. C'est terrible. On a là quelque chose qui semble intéressant parce que on rejoint cette notion de liberté ici qui fait que justement le moi n'est pas défini. Si le moi existait comme existe un coupe-papier, un objet, alors à ce moment-là, on n'aurait aucune liberté. Ou la liberté serait simplement d'être le meilleur coupe-papier possible. Qui est quand même une liberté limitée. Il dit que l'existentialisme tire les conséquences de la mort de Dieu. Et ça, c'est une réflexion intéressante. Intéressante aussi par rapport au bouddhisme, puisque dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. Et on pourrait se demander, est-ce que la tradition bouddhique tire toutes les conséquences de l'absence de Dieu ? Hein, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que dans le bouddhisme, on est complètement cohérent avec l'absence de Dieu. Dans le bouddhisme, on accepte les divinités, elles sont comme les dieux de l'Olympe. C'est une sorte de... C'est les voisins qui habitent dans l'autre maison, un peu plus luxueuse, quoi. Enfin, voilà, ils ont leur ville, ils ont la musique un peu plus classique, un peu plus subtile, les nourritures plus subtiles, ils sont un peu mieux habillés, etc. Enfin, voilà, ils sont quand même limités. Donc, dans la tradition bouddhique, on nie pas l'existence de ceci, ça ne pose pas de problème. Mais il est clair qu'on ne pose pas l'existence d'un Dieu comme dans les religions monothéistes qui auraient quelque chose à dire au sujet de notre destin. Ça, c'est complètement nié. Mais est-ce qu'on tire toutes les conséquences de cette absence d'un Dieu qui aurait quelque chose à dire ? Et donc, cette notion de la mort de Dieu, si vous voulez, bon, là, on l'a juste un peu évoqué, même si... Chez les grands penseurs comme Kant et autres, ils vont rester chrétiens, mais ils se placent différemment, si vous voulez. Après, dans la pensée occidentale, surtout avec Nietzsche, on va constater, faire le constat de la mort de Dieu. Il serait faux de croire que les penseurs modernes ont voulu la mort de Dieu, couru après avec une machette pour régler son compte. Ils ont constaté sa mort et... Ceci correspond à un réveil brutal, tout d'un coup. On pourrait dire même avec une gueule de bois. Parce que si Dieu n'existe pas, évidemment, alors il y a beaucoup de sécurité, de certitude qui disparaît. Tout d'un coup, il y a quand même une sorte d'abîme extrêmement profond. Donc c'est un constat que... qu'a fait manifestement Nietzsche et beaucoup de penseurs après lui. Donc ça cite Dostoïevski qui disait « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. » Rien. On essaie de prendre une conséquence. Si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Mais est-ce que c'est vrai ? De Sartre, c'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si en effet l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme, l'homme est libre, l'homme est liberté. Ce qui veut dire tout d'un coup, il n'y a personne qui détermine. Donc c'est cette mort de Dieu, si vous voulez, renvoie l'homme à sa totale responsabilité. Il n'y a pas une nature humaine qui le déterminerait, comme le pigeon par exemple, ou comme le coupe-papier. Il dit, l'homme n'est rien d'autre que tel qu'il se fait. Tu as rappelé ici une des phrases des sutras du Bouddha où il dit, l'homme est noble par ses actes et non pas par sa naissance. Donc finalement, on a à se déterminer à chaque instant par un choix. Ça reparlera de la mauvaise foi. La mauvaise foi qui est le fait de refuser cette liberté, de devoir se faire à chaque instant. Refuser cette liberté, c'est se donner des excuses. Par ses traits de caractère, moi je suis comme ça. De vouloir se déterminer comme étant quelqu'un de particulier. Donc il dit qu'il n'y a pas d'excuse, qu'on se choisit. Ouais. Dans une retraite de méditation, c'est clair, il y a des gens qui sautent toujours la première méditation, disent « je ne suis pas du matin ». Voilà un bon exemple, déterminé. Je ne suis pas du matin. Donc, voilà, je ne peux pas venir à la première assise. Mauvaise foi. Comme si on était déterminé. Comme s'il y avait une nature, il y a des gens qui sont nés comme ça dans l'univers, qui ne sont pas du matin. Et en général, c'est sans appel, ce genre de remarque. Voilà. Je ne suis pas du matin. Donc on va voir ici que cette notion de liberté, tout d'un coup, elle devient quelque chose de fondamental, de très important. Enfin, tu dis, on est condamné à être libre. Il veut dire qu'on allait être libre dans le sens où on a à se choisir à chaque instant. Il n'y a pas un moment donné où on a fait le boulot qu'on s'est choisi pour le reste de ses jours. À chaque instant, on a à se choisir. Donc on voit ici aussi combien c'est beaucoup plus exigeant que lorsqu'on est complètement déterminé. On peut imaginer aussi combien ceci va avoir d'impact sur le sens de la responsabilité. Donc, le bouddhisme est une religion sans Dieu, créateur, si vous voulez. Et on verra si toutes les conséquences ont été prises de cette absence de Dieu, ou si on n'a pas gardé certains éléments qui ont été empruntés à une croyance en un Dieu qui aurait le pouvoir, comme on l'a dans certaines traditions hindoues, évidemment. Et que tout d'un coup, on reprend certaines valeurs sans se rendre compte, tout d'un coup, que sans l'appui de l'existence d'un Dieu, elles perdent leur sens. Pour ça, je crois que c'est important de placer ces choses dans le contexte, autrement, la liberté, ou la liberté dans le bouddhisme, ou la responsabilité, mais qu'est-ce que ça implique ? Il y a beaucoup de choses qui sont là, en arrière-plan. fortement, mais puisqu'il y a quand même des discussions, et si vous voulez discuter, eh ben, vous ne pouvez pas être d'accord ou être d'accord, vous pouvez très bien le faire. Le silence a un sens spécifique dans un contexte, et il y a d'autres moments où il n'a pas de sens spécifique, ce n'est pas une valeur en soi, mais, le silence, même si ça fait bien, je veux dire. Mais voilà. Donc, je me souviens comment maître tibétain Guécherin est venu donner un mois d'enseignement à Rolle il y a bien quelques années. Alors on avait organisé ceci, on avait aussi fait pas mal de stages de 10 jours en silence, donc on voulait que ça soit en silence, et il n'y avait rien à faire. Il n'a jamais voulu que ce stage soit en silence parce qu'il donnait beaucoup d'enseignements, mais pour lui ça n'avait pas de sens d'amener beaucoup d'idées et de réflexions et tout d'un coup dire aux gens maintenant vous vous taisez. Alors que les gens pouvaient parler entre eux, échanger, ne pas être d'accord. Voilà, donc. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que ce soit en silence, mais on peut quand même garder le calme dans cette salle-là pour qu'on puisse rester, trouver un peu de calme. Si les gens veulent réfléchir en eux-mêmes, ou bien même méditer en silence, et puis derrière le rideau, qui est évidemment pas un pare-bruit très puissant, mais ça ne fait rien, pour rester, si vous voulez, donc faire un peu de méditation marchant, et on se retrouvera ici, donc à midi moins quart.